Bonsoir, vous êtes toujours en compagnie de Jacques et Corinne avec Onde Noire.
Sur Agora FM.
Sur Agora FM. Et je vais maintenant vous convaincre de lire une réédition. Et c'est bien parce que les rééditions, c'est pas cher. C'est chez Poinceuil. Ça vient de paraître, hein, ça a 2-3 mois. Pour 6,50€, vous avez un excellent roman de Guillermo Arriaga qui s'appelle « Un doux parfum de mort ». Et comme on tient à parler des traducteurs, c'est traduit par François Gaudry. Donc Arriaga, vous pensez pas, peut-être ne pas le connaître, mais je suis sûre, excusez-moi,
que vous en avez entendu parler.
Merci de combler cette légère défaillance. Donc, c'est le scénariste d'un film génial et qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il a eu un prix à Cannes, me semble-t-il. C'est Trois enterrements avec Tommy Lee Jones.
Mais aussi le scénariste de 21 grammes.
21 grammes aussi, de quelques autres.
Avec la charmante Naomi Watts.
Voilà, ça y est, on est reparti dans les blondes au gros seins. Non, mais il y en a marre. Bon,
ça enfin, sera coupé au montage. Hein.
Bon, ça va, tant que ce n'est pas les gros seins qui sont coupés. Bon, on est au Mexique. Guillermo Arriaga est originaire de ces contrées-là. Et ça a beaucoup, beaucoup d'importance dans le roman. Dans un tout petit village accablé de lumière et de soleil, Ramon Castaños est un des héros, un des personnages principaux de ce livre. Et dès le début du roman, il n'a vraiment pas de chance. Non seulement c'est un de ceux qui découvre un cadavre, et c'est le cadavre d'une jeune fille, Adela, et ce cadavre, c'est une jeune fille assassinée. Mais en plus, non seulement il l'a découvert, la rumeur, qui est très tenace dans ce petit village, veut qu'il ait été le fiancé de cette jeune fille. Or, là-bas, on badine pas avec l'honneur. Dans ce bled paumé du Mexique, Ramon, maintenant, il doit passer son temps à venger sa promise. En trouvant le meurtrier, évidemment, on fait pas de cadeau en le tuant à son tour. Seulement, le problème, c'est que c'était pas du tout son fiancé et qu'en plus, on est tombé sur le seul jeune homme, pas trop macho, pas trop gonflette et tout, qui est très timide et qu'ose pas dire la vérité. Alors, il se met très mollement à la recherche du tueur. En fait, il va doucement parce qu'il espère que les flics arrêteront le meurtrier avant. Mais manque de peau, dans ces quartiers-là, les flics, il n'y a pas plus corrompu qu'eux, ils sont vraiment pourris jusqu'à la moelle, et donc ils ont autre chose à s'occuper, ils s'occupent d'activités plus lucratives. Bref, Castaños n'a vraiment pas de peau. Et un autre qui n'est pas chanceux dans le bouquin, c'est le gitan. Lui, bah, il est étranger, donc qu'est-ce qu'il va être très vite soupçonné, parce qu'en plus, il a une réputation de coureur de jupons, et donc ça peut aller mal pour son matricule. Et en fait, on se demande si la vérité a une place en ce lieu du Mexique où la survie tient d'un miracle quotidien. Si vous ne connaissez pas Arriaga, il faut le découvrir à travers ce roman, cette réédition chez Poinceuil, parce qu'il a un talent de conteur absolument extraordinaire. Ce roman, c'est une sorte de fable noire qui oscille constamment entre le drame et la comédie. C'est d'une noirceur totale. Quand il décrit en particulier les habitants muséreux et complètement sans espoir du village mexicain. Mais alors, on vraiment s'éclate de rire, vraiment, il y a des passages éclatants, quand par exemple, le curé qui doit faire la cérémonie est remplacé par deux évangélistes échoués dans le coin, on ne sait vraiment pas comment. D'ailleurs, ils sont sûrement plus amenés par un démon que par la volonté divine. Alors, il y a l'enterrement d'Adela, c'est une scène hautement improbable et hautement comique. La préparation du corps, parce qu'évidemment, il fait chaud là-bas. Ils n'ont pas de frigo, ils n'ont pas de morgue. Donc, il ne faut pas trop que, comment vous dire, le corps entre en...
Exhale.
Exhale, voilà. Donc, mais ils n'ont pas de produits. Donc, ils transfusent avec des produits très bizarres. Enfin, c'est complètement hilarant. C'est court, c'est vif, c'est tranchant. Bref, c'est un pur régal. Donc, je redonne les coordonnées. Le titre et l'éditeur, Un doux parfum de mort chez Poinceuil. Alors, non, je n'ai pas le livre sous la main, donc je ne sais pas la collection exacte de Poinceuil. Pour 6,50€,
dans
vous
la
avez...
collection noire.
Dans la collection noire, qu'on a inaugurée il y a quelques mois, l'année dernière. Voilà, et j'en profite pour rappeler l'excellent travail en réédition de l'ensemble de Poinceuil policier, thriller et noir, qui nous fait redécouvrir de petits joyaux dans le roman noir.
À des tarifs tout à fait raisonnables.
Voilà, alors tarif tout à fait raisonnable aussi.
Là,
je
on
crois.
Change complètement d'univers. C'est une collection qui s'appelle Polar Rock. Dans l'éditeur, c'est Mare Nostrum. C'est un éditeur.
Comment tu as dit, Mare?
Mare Nostrum.
Nostrum. Ah oui, c'est mieux.
C'est un éditeur de Perpignan, éditeur local. Mais là, ce sont des auteurs.
Oui, s'il est de Perpignan, il est local quand même.
Bah oui, c'est à Paris, c'est local aussi. C'est idiot ce que tu dis.
Bon.
Donc, c'est un roman de Thierry Criffaut qui s'appelle Les Portes du Garage. Donc, cette collection Polar Rock, en fait, chaque auteur prend en charge une partie de l'histoire du rock qu'il a aimé et il en fait une histoire noire et musicale où, bien sûr, il va mêler ce qu'il a aimé dans cette musique à un roman noir. Comme c'est précisé dans la quatrième de couverture, c'est comme un bon roman noir, ça se termine mal et la morale se sauve.
Jolie formule.
En plus de chaque roman, on a le droit à une superbe couverture originale, une superbe illustration. Bon, il faut dire, celle-là, c'est peut-être la moins réussie des quatre. Mais par contre, le roman, c'est le meilleur des quatre. Donc, ça compense. Le précédent roman, il y avait une illustration de Solé, qui était tout à fait magnifique. Ceux qui connaissaient Solé dans Rock et Folk des époques, voilà, c'est superbe. Et c'est vrai qu'après Solé, c'est difficile de faire une aussi belle couverture. Ce roman, donc, se passe dans les 60s. C'est la deuxième moitié des 60s, plus précisément vers 66. C'était les voitures à l'époque, c'était les Arondes. Il y avait des yéyés, mais ceux qui savaient, ceux qui écoutaient autre chose, ils écoutaient du rock, du vrai. Bon, il y avait les Stones, les Kings et les Pretty Things qui se battaient à la deuxième place, parce que la première, c'était bien sûr les Beatles de très loin.
C'est un avis très personnel et que tu
et
partages.
Et ensuite, on était tout au début, mais c'est aussi tout au début du rock psychédélique, avec des noms fameux exotiques comme les Chocolate Watch Band, les Shadows of Night et aussi mes préférés, les 13 Floor Elevator.
13 Floor Elevator, ah oui, c'est
donc,
exotique.
Il y avait toute une histoire. Il y a toute une histoire rien que dans le nom des groupes. C'est les groupes qui avaient commencé à mettre un peu autre chose que du rock. Dans leur musique. Bon, je vais quand même vous parler un peu
du
de
livre,
l'histoire.
Parce que
voilà.
L'histoire en général.
Ouais, la musique, je pourrais en parler longtemps, mais bon.
Criffaut nous tricote de belles histoires en général.
Voilà. Donc Thierry Criffaut, là, donc il a choisi un héros. Il s'appelle Robbie. Il est guitariste et chanteur du groupe Les Noirs Velours. Il rêve de gloire et de succès, de golf Drouot. Mais en fait, ce sont que des baloches et de la musique de merde qu'il peut jouer en alternant les petits boulots et le chômage. Musique de merde, c'est dit par lui-même, c'est-à-dire du yéyé ou des trucs pour les baloches, quoi. C'était pas terrible quand on veut jouer du rock. Mais un jour, il découvre les Seeds. C'est aussi un des groupes dont j'ai pas parlé tout à l'heure pour en parler maintenant. Et ça va changer sa vie. Ça va la motiver. Ils vont enchaîner les répètes, dégoter un contrat pour le groupe à un autre bout, dans un petit garage à l'autre bout de Paris. Et c'est le début d'une belle histoire, croit-on. On est tout au début du roman.
Mais on est dans un roman noir.
On est dans un roman noir et tout bascule effectivement dans le noir, la bagarre, la fuite et la fin peut-être de la belle aventure. Criffaut nous distille, j'ose le mot, un joli polar rock au ton doux amer qui est généralement le ton des romans de Thierry Criffaut. Il nous raconte la vie étriquée et minable de ces jeunes de banlieue d'avant 68. Je suppose que ça ne doit pas être bien mieux maintenant. On a le son des guitares, le son des malagoutis.
C'est quoi comme instrument de musique?
C'est une motocyclette qui avait la forme d'une moto. Mais il faut tout leur apprendre à ces jeunes. Voilà. Et les personnages sont super bien campés. Et on a beaucoup de tendresse. En fait, d'ailleurs, c'est Criffaut qui a beaucoup de tendresse pour eux. Et du coup, nous, on en a aussi. C'est très court, ce sont des novellas. Hein, donc, ça fait une 130 pages.
Oui, ce sont des livres qu'il faut trouver hein, chez son libraire parce que c'est un petit format.
C'est un petit format, c'est carré.
En fait, ça a le format d'un CD, pratiquement.
C'est un peu plus grand,
hein, tout
le CD,
petit peu
ça
plus
fait
grand.
12 par 12, ça doit faire 14 par 14. Ça.
Ah, on sort le spécialiste. Hein.
Mais c'est bon, si jamais ils sont posés à plat et pas sur la tranche, vous les reconnaîtrez tout de suite parce qu'ils ont vraiment de superbes illustrations.
Mais c'est vrai qu'il faut les chercher.
C'est vrai qu'il faut les chercher, voire les réclamer. Parce que Mare Nostrum n'est pas forcément très bien distribué.
Donc, c'est sûr.
Ils ont changé de distributeur, ça devrait peut-être aller mieux.
Donc on rappelle les coordonnées. Enfin, les
Portes du Garage par Thierry Criffaut aux éditions Mare Nostrum. Pour illustrer tout ça, pour un prix de 10 euros. On va mettre un petit morceau de musique. C'est le groupe Les Shadow of Night, dont on parlait tout à l'heure. Et le titre, ben, pour un livre, c'est normal. Ça s'appelle « You can judge a book by looking at the cover ».
Well, you can't judge an apple by looking at a tree. You can't judge honey just by looking up at the bee. You can't judge a daughter by looking at her mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Wow, baby, you misjudge me. I might look like a farmer, but I'm a lover. Judge a book by looking at the cover, come on. Well, you can't judge a fish just by looking in a pond. You can't judge right by looking over at the wrong. You can't judge a sister by looking at an ugly brother. You can't judge a book by looking at the cover. Whoa, can't you see? Oh no, baby, misjudge me. Farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Your turn, one. Judge a town by looking at the people. You cannot judge a church just by looking up at the steeple. You can't judge a daughter by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Whoa, can't you see? Now, baby, you misjudge me. I might act like a farmer, but I'm a lover. Judge a book by looking at. Let's get out of here!
Les Shadows of Night.
Vous ne pouvez pas juger un livre en simplement regardant sa couverture.
Belle traduction. Enfin, je suis un peu déçue parce que c'est vrai que le titre est parfait, mais quand même, tu aurais pu trouver quelque chose sur 13 Floor Elevator. Quand même, c'est avec un nom pareil. Enfin, c'est pas grave. Donc, on va.
Mais c'est parce que le héros préfère les Shadows of Night au 13 Floor Elevator. Moi, non, mais.
Bah, on va. Mais alors. Complètement changé d'univers, de sujet et même de continent, puisque je vous emmène à Cuba pour assister à la dernière enquête de l'inspecteur Rodriguez Pachón, sans l'accent évidemment. C'est le titre
Pachón.
Ah bon, d'accord, oui, si tu le dis. C'est un titre, la dernière enquête de l'inspecteur Rodriguez
Pachón.
Merci. De José Luis Muñoz. Si jamais tu veux reprendre mon accent, tu peux. Paru chez Actes Noirs, Actes Sud.
Dans la collection Babel Noir. Ah non, dans la collection Actes Noirs, pardon. Autant pour moi.
Toutes tes interruptions ne sont pas de bonne aloi.
Non.
Bon. Ça début 2008 et c'est traduit par Alexandra Carrasco. Comme le titre l'indique, nous allons donc avoir affaire à l'inspecteur Rodriguez. Ah non, j'ai pas la suite, Pachón. Lui, il travaille à la Havane. Et son boulot, c'est de surveiller les bordels, soi-disant clandestins, parce qu'on découvre au fur et à mesure dans la vie de cette capitale qu'ils sont plutôt pas du tout clandestins. C'est donc dans une maison close qu'il retrouve aussi régulièrement Minerva, une jeune prostituée, qui lui récite des poèmes. Pachón, qui est amoureux de la littérature, de Faulkner, d'Hemingway, va évidemment succomber au charme de Minerva et certainement uniquement à sa façon de raconter ses poèmes. Quoique. Mais il faut bien travailler, évidemment, puisqu'il est flic. Et le voilà chargé de découvrir quel est ce tronc décapité découvert dans une poubelle. On est en plein été dans la capitale cubaine, et donc le flic, aidé de son collègue Vladimir, va errer à la recherche d'indices. Mais petit à petit, le doute s'installe, aussi bien chez Vladimir que chez le lecteur. Veut-il vraiment retrouver la tête de cette femme assassinée ? Le personnage de Munoz est un personnage fantastique de roman noir. Il est vraiment au bout du rouleau. Et en fait, c'est un peu une métaphore de l'île dont il est originaire, c'est-à-dire de Cuba. Munoz, ce qu'il veut surtout montrer dans ce livre, c'est le peuple cubain, comment il est étouffé par le blocus, comment il est surveillé par la milice de Castro, et qu'il ne survit en fait que par les petites combines avec les touristes. Je cite une phrase du livre. « Les voyageurs étaient la manne tombée du ventre des énormes Boeing qui atterrissaient à l'époque à l'aéroport de la Havane. Le jour où plus personne ne descendrait des marches des avions, ils pourraient fermer l'île et se jeter tous à la mer. » Ceci dit, il y en a tellement qui se jettent à la mer pour rejoindre les États-Unis. Ce que décrit aussi beaucoup Munoz, c'est la prostitution qui est interdite et pourtant pratiquement institutionnalisée. La pourriture est partout, sur les murs, sur les esprits. C'est un récit qui soigne vraiment la sueur, le sexe, l'alcool. La désespérance aussi, j'en ai déjà un peu parlé, de Patchon, bien évidemment, dont le titre nous indique déjà le destin, mais surtout, encore une fois, des Cubains. C'est un roman, vous l'aurez deviné, très noir, mais aussi très très poétique, tant on sent la passion de l'auteur espagnol pour la Havane et ses habitants. Certes, il décrit la décadence du pays à travers le destin de l'inspecteur, mais aussi il décrit les Cubaines. Et je vous dis pas comme il parle du cul et des déhanchements des Cubaines qui parcourent le Malecón. Et puis il parle aussi de ces couchers de soleil sur cette grande avenue de la Havane qui, heureusement, eux, n'obéissent pas aux Américains. Voilà, livre absolument fantastique de José Luis Munoz, La dernière enquête de l'inspecteur Rodriguez Patchon. Et il est l'heure pour nous de clore cette émission.
Et on vous dit à la prochaine fois.
Et bonne lecture.